La recherche du plaisir sensuel ou sexuel, on pourrait dire qu'elle est universelle. En tout cas, elle est commune à quasiment tout le règne animal. Pour les insectes, je ne sais pas. Mais on sait parfaitement que quasiment tous les animaux se masturbent, qu'un certain nombre d'animaux utilisent même des outils, comme les grands singes, mais même les porcs-épics. Les humains ne sont pas en reste, bien entendu, et depuis l'aube des temps, allant jusqu'à en faire des outils médicaux au XIXe siècle à destination des hystériques. La science-fiction a évidemment mis son grain de sel. Androïdes et gynoïdes accompagnent les nôtres dans leur voyage au jeu long cours. Les combinaisons de cybersex ou de stimulation pullulent. Les machines à orgasme se déclinent un peu partout. Le sexe est présent, plus ou moins tabou, dans de nombreux textes. Pour en parler, nous avons autour de nous Pierre-Henri Gouillon, ingénieur agronome, docteur en sciences, philosophe, généticien, biologiste, spécialisé de l'évolution de la génétique, de l'écologie et de la biodiversité. Jeanne de Batz, auteur aussi bien pour les adultes que pour les jeunes, auteur de science-fiction et uniquement de science-fiction. Raphaël Granier de Cassagnac, auteur de science-fiction et chercheur en physique des particules. Et Claude Ecken, auteur, critique, grand lecteur et un des plus grands érudits de la science-fiction. Je vais commencer par justement poser la question à Pierre-Henri sur cette recherche du plaisir chez les animaux et chez les hommes et l'évolution qui nous a amenés à ça.
Bon, alors je veux pas entamer trop le débat de demain, ce qui s'appelle le gène égoïste, mais l'idée c'est qu'en gros l'évolution a été conduite par la sélection naturelle qui a favorisé des informations génétiques qui étaient le mieux possible reproduites par les organismes qu'elle permettait de produire. Et le résultat, excusez-moi, je prends des, c'est compliqué à dire parce que l'information génétique en elle-même c'est comme une recette de cuisine, elle fabrique rien, mais elle permet la production d'organismes et elle donne des indications sur la façon dont ces organismes seront constitués. Et c'est leur reproduction qui est sujette à la sélection. C'est-à-dire que si jamais des organismes reproduisent, font beaucoup de descendants, ben ils reproduisent beaucoup leurs gènes. Du coup, ces gènes-là, on va les retrouver plus dans les générations d'après, et ainsi de suite. Le résultat, c'est donc que nous sommes, en quelque sorte, on peut nous voir, en tout cas, et on pourra discuter éventuellement de diverses manières qu'on a de se rebeller contre ça, mais on peut être perçu comme des machines à reproduire nos gènes. Et comment ils font nos gènes pour nous faire faire ce qu'ils veulent? Eh ben, c'est pas compliqué. Ils ont inventé des centres du plaisir et des centres de la douleur. Et quand on fait ce qu'il faut pour eux, eh ben, ils nous donnent du plaisir. Et quand on fait ce qu'il faut pas, ils nous donnent de la douleur. À force, on finit par faire plutôt ce qu'ils veulent. Et parmi les choses qu'ils veulent, il y a le fait qu'on fasse des descendants. Et donc, une des manières simples de nous amener à faire des descendants, c'était de nous donner du plaisir quand on pratique le coït, disons, hein, qui amène normalement à fabriquer des descendants. Alors évidemment, dans les populations actuelles, et je pense qu'on en reparlera après, mais ce n'est pas le sujet tout de suite, mais aujourd'hui, on est parfaitement capable de faire des descendants sans acte sexuel, et on est capable d'avoir un acte sexuel sans faire de descendants. Du coup, ces choses-là, ces cartes sont terriblement brouillées sur le plan évolutif. Mais disons que historiquement, depuis l'origine des animaux jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble des animaux, y compris nous, eh ben, c'est en gros comme ça que ça a marché. C'est d'ailleurs très bien décrit dans le Zarathoustra de Nietzsche. Hein. Il dit le ça dit au moi, prend du plaisir, et le moi prend du plaisir, et il recommence. Et voilà, quand le ça fait souffrir le moi, ben, le moi arrête de faire ça parce que c'est pas bon. Donc ce guidage, je pense qu'il a été perçu par les philosophes avant d'être compris par les biologistes. En tout cas, il y a un guidage par le plaisir, et ce guidage, il est destiné à nous amener à survivre et à faire des descendants. Voilà. Je veux pas être trop long, donc je m'arrête là, si tu veux.
Claude Ecken, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de sex toys, de machines à plaisir dans la science-fiction?
Sans images, ça va être dommage. Ouais.
Oui, je crois que c'est pas ce qui manque. Bon, tout le monde connaît au moins l'exemple. Alors, en science-fiction de bande dessinée, Barbarella, avec son robot Hector, elle le remercie de lui avoir donné du plaisir, et le robot disait « Je sais bien que mes élans ont quelque chose de mécanique ». Ensuite, eh bien, évidemment, il y avait d'abord le sexe virtuel. Il y a toute cette virtualité qui permet aussi d'avoir des partenaires et qui ont posé dès le départ beaucoup de questions, puisque est-ce que je suis en train de tromper mon conjoint lorsque je m'évade dans des univers virtuels? Il y avait une phrase très intéressante de David Brin dans une petite nouvelle qui s'appelle « La vie naturelle », où chacun a une chambre pour virtualiser des choses, c'est-à-dire que le parquet se déforme pour donner la déclivité du terrain. On a bien sûr une combinaison qui permet de ressentir des effets de chaud, de froid, et ça permet d'aller dans des mondes entièrement virtuels. Le personnage principal est en train d'apprendre la vie préhistorique, tailler des silex et tout dans cet univers-là. Il a sauvé une fille qui s'appelle Cheville de Girafe, et laquelle est tellement reconnaissante qu'elle s'accroche à lui. Et il s'en trouve quand même très gêné. Ce qui était très intéressant là, c'est qu'il disait que la confusion avec le réel est notée par ce raccourci. Ce n'était qu'un logiciel, des morceaux d'illusion sur une puce de silicium, et puis je la connaissais à peine. C'est-à-dire que l'effet de réel est là. Alors, les sextoys en science-fiction, ben, on en a depuis les années 70. Le robot serait bien sûr la réalisation ultime, à partir du moment où le robot pourrait agir et interagir avec l'individu.
D'ailleurs, dans l'un des derniers textes de Pierre Bordage, chez les petites bulles d'univers, il a une gynoïde qui est là pour ça.
Effectivement. Shekley a beaucoup joué avec ça. Jusque même pour la recherche du partenaire dans le robot qui me ressemblait, la personne qui est tellement débordée par sa vie quotidienne envoie un robot aller faire la cour à une autre personne. Un robot, évidemment, complètement humanoïde. Le problème, c'est que le robot n'a fait la cour qu'à l'humanoïde de la personne désirée et que, finalement, ce sont les deux robots qui partent de leur côté.
Jeanne, tu voulais ajouter quelque chose ?
Alors, ce que disait Claude tout à l'heure sur la façon dont on se parlait de sexe, ça m'a rappelé une nouvelle de Varley qui doit bien d'un été des années 60-70, qui raconte l'histoire de deux protagonistes qui sont chacun dans un satellite, enfin dans un vaisseau, dont l'orbite est totalement divergente. Ils ne peuvent que se parler, ils ne peuvent pas se rejoindre. Et donc ils se font l'amour par téléphone, enfin par radio, pendant des années jusqu'au moment où il y a un accident et où il faut que l'un aille de l'autre côté pour sauver l'autre. Ce qui donne que le problème de la réalisation du passage à l'acte. Et d'un autre côté, tu parlais des gynoïdes, Sarah. Dans la nouvelle, dans l'anthologie des Utopiales de cette année, on a une nouvelle de Gérard Klein qui date de 1968, qui s'appelle « Un gentleman » et qui raconte comment, à la suite de déboires sentimentaux difficilement supportables, un homme extrêmement bien élevé finit par se résoudre à acheter un gynoïde, je crois qu'il appelle ça aussi comme ça. Et il y a un souci lié à sa trop bonne éducation quant à l'usage de l'objet.
Mais d'ailleurs, je voulais te poser la question à ce sujet. Les robots, les sexbots, pourrait-on dire, peuvent à ce moment-là remplacer les poupées gonflables? On voit d'ailleurs les real dolls japonaises dans ce sens. La machine est-elle là pour échapper au consentement d'une certaine manière ?
Alors ça me paraît évident dans la façon dont les robots, décrits dans la science-fiction pour les hommes, les robots femmes, apparaissent. Dans la dernière nouvelle de Paolo Bassigalupi, c'est exactement le problème qu'il y a, puisque Paolo décrit l'histoire d'un robot qui a tué son propriétaire, on va dire, parce que la façon dont il usait sexuellement d'elle, encore que, est-ce qu'on peut parler d'une elle lorsqu'on parle d'un objet en métal, finissait par l'insupporter. Et toute l'histoire de la nouvelle, c'est de savoir si on a affaire à un accident domestique dû à un objet défectueux ou à un meurtre. C'est une pure merveille. Cela étant, évidemment, la question du consentement se pose. Mais pour les objets sexuels à destination des femmes, on n'est pas du tout dans cette optique-là.
Je parlais de sexbots, de robots, comme on parle de poupées gonflables, en fait. Je parlais des real dolls japonaises ou de ce genre de robots-là, pas D'accord. Pas de l'objet sexuel en tant que tel.
Vous voulez dire que si jamais il y avait des robots qui étaient des objets sexuels pour les femmes, il n'y aurait plus de problème de consentement ?
Non, je ne crois pas.
Je ne crois pas parce que nous savons ce que c'est que le problème du consentement.
Et je vais me retourner...
C'est sexiste, hein, ce que je viens de dire, mais ça fait rien, j'assume.
C'est intéressant.
Je vais me retourner vers Pierre-Henri, mais parce qu'on va parler un tout petit peu d'éthique. On sait maintenant, dans tous les objets sexuels qui existent dans les sex shops, etc., il y a des choses assez bizarres. Par exemple, il existe des brebis gonflables. Est-ce que donc les sexbots rêvent-ils de moutons gonflables ? On peut se le demander. N'est-ce pas à ce moment-là une porte ouverte à certaines dérives ? La fin de tabou sexuel, est-ce qu'on peut imaginer construire à ce moment-là des robots, des sexbots sous toutes sortes de formes ? Ça arrive, il y a des poules qui se font violer, il y a même des voitures qui se font violer. Donc.
Oula, bon, c'est... Faut que je réponde à ça. Bon, alors moi, je refuse le terme de viol pour une voiture, je vous le dis tout de suite, parce que pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait refus de consentement et que je ne vois pas ce que ça pourrait signifier qu'un consentement pour une voiture. Donc, laissons tomber les voitures. Effectivement, alors il se trouve que je viens de faire la préface d'un livre, c'est pas de la science-fiction, c'est tout à fait réaliste et ça s'appelle Pervers. Et donc c'est un Américain qui se présente comme athée et homosexuel dans l'introduction de son livre et qui explique qu'il estime qu'il a beaucoup de chance parce qu'il est homosexuel mais il vit aujourd'hui et que s'il avait vécu il y a seulement 50 ans de plus ou plus, et ben, il aurait risqué des tas d'ennuis. Et du coup, il passe en revue toutes les perversions et il se pose la question qu'est-ce qui est dans les perversions considérées comme actuellement pas acceptables, quelles sont celles qui, au fond, devraient l'être, quoi. Alors, il y a des tas d'exemples. Il y en a qui ne sont pas ragoûtants du tout et je ne vais pas vous raconter tout ça. Mais effectivement, la zoophilie, par exemple, la question se pose de savoir jusqu'à quel point c'est gênant. Alors, ça peut être considéré comme de la maltraitance. Quand il s'agit d'une poule, je pense qu'effectivement, ça doit pouvoir. Quand il s'agit d'une vache... Bon, bref, j'ai une formation d'agronome. Et
on voit.
Et on m'a appris même à faire de la fécondation artificielle à des vaches. Je vous assure qu'on fait un fist fucking tout à fait remarquable pour faire ça. Donc, je ne peux pas. Donc, je peux vous dire que si jamais vous prenez ça pour de la maltraitance, il va falloir foutre en taule tous les vétérinaires de la campagne française. Hein. Bon. Donc, voilà. Effectivement, je pense qu'il y a plein de problèmes d'éthique. Et d'ailleurs, vous avez l'air de régler le problème très facilement avec les robots. Je pense qu'effectivement, la question de savoir à quel moment il y a de la souffrance, c'est un problème très compliqué. Et au fond, on peut être d'accord globalement sur le fait qu'on peut discuter de quelles sont les perversions qui sont acceptables ou pas, mais celles qui font souffrir quelqu'un sans aucun consentement, ça n'a pas de raison d'être autorisé. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Quant à s'agissant d'un robot...
Même sous forme de robot ?
Alors la question, voilà, c'est de savoir comment on va pouvoir définir la souffrance d'un robot. C'est là que ça devient compliqué. Je pense qu'on pourrait imaginer... Excuse-moi, je finis juste là. Des programmes qui fassent qu'un robot souffre, effectivement. On pourrait programmer un robot pour qu'il puisse souffrir. On pourrait mettre en place des centres du plaisir et des centres de la douleur dans l'équipement d'un robot. Et le jour où on fera ça... évidemment, peut-être que ces robots-là apprendront plus vite que les autres, qu'il sera plus facile d'interagir avec eux parce qu'on saura mieux comment les amener à faire ce qu'on veut, mais qu'en même temps, on verra arriver un problème d'éthique qui inclura la question du consentement. Et je suis désolé de contredire mes deux voisines qui sont peut-être qu'on a un problème de genre là, mais moi je pense qu'on pourrait aussi imaginer qu'il y ait des problèmes de consentement pour un robot homme qui serait utilisé par une femme, il n'y a pas de raison.
C'est tout à fait possible.
Non, mais c'est tout à fait probable. Mais attends,
juste une toute petite chose. Ce que je voulais dire, c'est que on parle de perversion, on peut parler de zoophilie ou de pédophilie. Est-ce que à ce moment-là, construire un sexbot comme les real dolls japonaises, qui est la forme d'un enfant ou d'un animal, n'y a-t-il pas là un problème d'éthique ?
Alors c'est une discussion qu'il y a d'ailleurs dans le bouquin sur pervers, parce que la question se pose pareil avec les sites, certains sites d'ailleurs, ceux qui ne font pas des photos de vrais enfants, mais des photos de jeunes déguisés en enfants. Ce qu'on ne sait pas, et je pense qu'actuellement on n'a pas la réponse, c'est est-ce que le fait que des gens qui ont des tendances pédophiles puissent vivre ce genre de choses, du coup, ça leur permet de les exprimer et de ne pas les vivre en réalité avec des jeunes, et auquel cas ça serait quand même un résultat plutôt positif. Ou au contraire, est-ce que ça banalise la chose et que du coup ça rend encore plus probable le fait que des enfants se fassent violer? Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas la réponse à ces questions et du coup, je la laisse ouverte pour ce qui me concerne.
Ouais, peut-être l'avantage, si ça devient avec des robots, c'est qu'aujourd'hui, l'exutoire éventuel passe par l'industrie du porno où là, il y a des acteurs. Donc là, pour le coup, il y a des gens, des vrais gens, non consentants, enfants, animaux. Enfin, pour les animaux, on peut se poser la question, mais pour les enfants, on ne peut pas se poser la question. C'est clair que c'est une atrocité. Et donc, si les robots remplacent le porno dans ce sens-là, on va peut-être échapper à une industrie du porno qui, elle, est totalement répréhensible.
Il y a quand même, et comme indice potentiel de réponse à ce que tu viens de dire, le fait qu'on s'est aperçu que les pratiques pornographiques montrées dans les films avaient tendance à envahir la vie privée. Alors, si c'est bien le cas, dans ce cas, un robot en forme d'enfant, ça pourrait bien être un pouce au crime. Personnellement, comme ça, à froid, une image, un objet, même si ça n'est pas un fantasmatique autorisé, ça ne me gêne personnellement pas, puisqu'il n'y a pas de souffrance. Mais si, effectivement, on arrive à prouver que ça va envahir de la même façon que les pratiques porno envahissent le privé, là, il y aura un vrai problème.
Mais les pratiques porno en question, pour le moment, je crois que c'est des pratiques qui sont librement consenties par les deux partenaires, donc ce n'est pas tout à fait la même chose.
Et on parle aussi de snuff movies et de...
Lorsque, chez des jeunes, très jeunes, on passe directement à ce genre de pratiques qui sont des pratiques matures et adultes, moi, j'ai quand même un problème avec ça, parce que le sexe, comme toute pratique humaine, s'apprend. Ça n'est pas quelque chose qui est inné. Qui nous arrive directement. Même l'orgasme, on ne sait pas le ressentir directement comme ça, par miracle. Ne croyez pas ce qu'on vous dit dans les livres. Hein. La pure jeune fille vierge renversée par l'orgasme la première fois, ça n'existe pas. Juste pas. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, je n'arrive pas à imaginer que les pratiques extrêmement matures de la pornographie puissent être sainement vécues par des adolescents.
Voilà. Mais là,
même consentant, je veux dire.
Bien sûr. On tombe dans la question de l'éducation. Il faut d'abord commencer par une éducation
ben voilà.
Et ensuite... Alors, il y a justement, dans les pays anglo-saxons, il y a déjà des associations féministes et philosophiques qui essayent de militer préventivement contre la fabrication des sex-bots parce que, justement, ça perturbe le développement affectif des adolescents. Donc déjà, il y a des associations qui militent contre ça. Et je signale aussi qu'au Japon, lorsque l'on achète un pépère dans une boutique SoftBank, il y a un contrat de vente qui stipule que ce petit robot ne doit pas être utilisé à des fins sexuelles. Ça, c'est déjà aujourd'hui.
Tu voulais dire quelque chose ? Tu voulais pas dire quelque chose ?
Non, je voulais juste dire, effectivement, l'éducation, vous employez ce mot, je trouve intéressant par rapport à ce qu'on est en train de discuter. L'éducation à... au plaisir sexuel et à l'orgasme, actuellement, on ne sait pas le faire et on s'en remet à l'expérience individuelle strictement. Donc,
D'autant plus que la plupart du temps, quand un parent va parler de sexe avec son enfant, il va parler de procréation. Il va rarement parler de désir, de plaisir et de consentement.
Je pense que ça change. Ça change avec la vision que la société dans son ensemble a du sexe et évolue très vite. On est passé effectivement du sexe procréateur au sexe pornographique en passant par une zone sans doute sympathique au milieu. Et je pense que les gens qui étaient enfants et qui ont grandi dans le sexe pornographique vont parler différemment du sexe à leurs propres enfants que nos parents nous en ont parlé. Hein.
Mais d'ailleurs, il y a une anthropologue qui s'appelle Marika Moiseyev qui fait des conférences très amusantes sur ce sujet, en montrant justement à quel point notre société a une particularité par rapport à toutes les autres cultures qu'on connaît, c'est que justement, dans notre société, le sexe n'est plus vu comme un moyen de faire des enfants. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, moi, j'organise des rencontres entre sciences et jeunes régulièrement pour le CNRS. Et encore récemment, on a fait un truc sur sexe et amour. Et on discutait avec les jeunes, on leur demande qu'est-ce que c'est que le sexe d'après vous, etc. La discussion a commencé à durer une heure, parce que c'est des ateliers de 4 heures. Et au bout d'une heure, je leur ai fait remarquer que depuis le début, ils parlaient de sexe et que pas un seul avait parlé du fait que le sexe amenait à faire des descendants. Donc effectivement, il y a eu ce découplage qui a été fait. Je pense que c'est une caractéristique très forte de notre société. Et ce que fait remarquer Marika Moiseyev, c'est même que chez les parents modernes, le sexe est vu comme positif en permettant à leur enfant de se réaliser, à condition qu'elle ne tombe pas enceinte, surtout si c'est une fille. Hein. Et donc, c'est justement au contraire la procréation qui est devenue l'aspect négatif du sexe. Et elle prend l'exemple. Alors, vous savez, les anthropologues, ça aime bien prendre des mythes comme exemple de ce qu'ils racontent. Et elle prend l'exemple de Alien dans ses conférences. Et elle montre à quel point, dans Alien, la procréation, c'est un truc affreux, hein, les trucs qui sortent en déchirant la personne de départ, alors que le sexe, c'est plutôt agréable et sympathique. Voilà, donc je pense qu'effectivement, ces choses-là sont en train de beaucoup changer.
En effet, j'ai participé en 2000 à une anthologie de textes d'amour et de sexe écrits par des femmes. Et sur toute une anthologie où il y avait 17 auteurs, il y a eu un texte qui parlait d'enfants et deux textes qui parlaient d'amour. Tous les autres ne parlaient que
des textes
de
cul, quoi.
Voilà. Raphaël Granier de Cassagnac. Il existe déjà aujourd'hui des dildos connectés. Le cyberpunk est bourré de combinaisons de stimulation, etc., etc. C'est un jeu de... Est-ce qu'on a affaire à un jeu de rôle cyberpunk, un truc solitaire ou simplement une manière de faire l'amour à distance ?
Ah, bonne question. Mais je vais y revenir à ta question. Mais tout à l'heure, tu parlais de consentement et je pense que on va parler de la même chose. Tout de suite, moi, j'ai pensé le moment, à un moment, hein, les machines, et c'est peut-être déjà un petit peu arrivé, les machines vont être suffisamment sophistiquées pour que des humains deviennent amoureux d'elles, en quelque sorte. Et je pense qu'il y a certains, disons malades mentaux, mais je ne suis même pas sûr que ce soit approprié, qui ont déjà eu des choses comme ça avec des poupées gonflables de base, qui ont dérivé... ou alors le téléphone, c'est moins sexuel, mais t'as raison, on est complètement dépendant de nos téléphones. Et donc je pense que bientôt, il y aura sans doute des sextoys pour lesquels notre propre notion de... À nous, hein, pas au sextoy, évidemment, qui n'est pas pour moi pas consentant, enfin, qui n'a pas de consentement du tout. Mais nous, on sera, je pense, dominés par des produits sans doute commerciaux de type sextoy, et on sera peut-être plus consentants, on les consommera peut-être de manière complètement dominée par la publicité, par le système et tout ça. Et ça, c'est une hypothèse qui, en science-fiction, donc en allant encore plus loin, et commence... Alors peut-être... Tu me contrediras, je ne sais pas si ça a été exploré il y a longtemps, mais c'est pas mal exploré en ce moment. Je pense au film Heure, qui est une intelligence artificielle, alors c'est pas un sextoy, c'est pas un robot, mais maîtrise, enfin domine complètement l'aspect amoureux et sexuel du personnage. Moi, dans mon deuxième bouquin Thinking Eternity, je me suis retrouvé presque malgré moi à faire un... c'est en premier en fait. Presque malgré moi à mettre une situation comme ça en jeu où une intelligence artificielle de très haut niveau s'amuse avec des humains. Alors pour revenir à ta question précédente, oui, il y a du jeu, évidemment qu'il y a du jeu. Je pense que dans toutes les pratiques de jeux de rôle et des choses comme ça, on peut développer des sentiments à distance. Après, ça dépend vraiment des gens. Hein. Pour moi, c'est pas fondamentalement... Enfin, le mode de communication est fondamentalement différent de la vie charnelle, on va dire, des rapports charnels, mais il peut s'y développer des choses très similaires. Pour moi, il y a des gens qui tombent vraiment profondément amoureux dans ce qui aujourd'hui est le cyber, enfin dans le monde cyber, on va dire, donc dans les jeux multiplayers. J'en suis persuadé de ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui...
Ce qui est curieux dans ce genre de questions et d'attitudes, c'est qu'au départ, si on va développer des robots sexuels, des sexbots, tout ce que l'on veut, c'est à propos de la question du consentement. Il n'y a pas le consentement de l'autre et on se passe de son consentement à travers une mécanique. Et que finalement, on n'avait jamais interrogé son propre consentement et tout d'un coup, c'est la mécanique qui nous l'interroge. Là, c'est un boomerang. Hein. Ouais.
Je voudrais dire que je trouve qu'il y a quand même, encore une fois, sur ce plan-là, Aldous Huxley était incroyablement précurseur parce que la description qu'il fait de ce film sensoriel dans lequel on fait l'amour sur la moquette et on sent chaque poil de la moquette, hein, si je me souviens bien, ça, c'est quand même écrit dans les années 1930. Et bon, il faut dire, il était le petit-fils d'un ami de Darwin et le frère d'un des plus grands évolutionnistes de son époque. Mais N'empêche que donc il était dans un milieu très scientifique et il a fait une science-fiction incroyablement contemporaine. Je trouve que sur ce plan-là, c'est intéressant de voir.
Voilà. Et là, on parle en fait de sexe sans contact physique. Parce que même avec une combinaison de stimulation, il n'y a pas de contact physique. Ce sont des impulsions électriques essentiellement.
Il n'y a pas de contact charnel. Il y a un contact physique, mécanique, mais pas...
Je pense qu'on pourrait même se passer de contact physique grâce à des stimulations qui travailleraient directement sur les neurones. Un jour ou l'autre, on sera probablement capable, simplement avec un casque sur la tête, de vous faire vivre tout ce qu'on voudra. Et je ne suis pas très rassuré sur ce qui se passe.
Moi, je ne suis pas très inquiète. Et puis, le côté domination par l'IA, par le sextoy, etc., on pourrait le renverser. On pourrait voir ça comme une façon de s'autonomiser par rapport à la dépendance à l'autre, qui parfois peut être extrêmement lourde, notamment dans un monde où les genres ne sont pas totalement à égalité, où la sexualité, notamment féminine, est liée traditionnellement à un engagement affectif dont on exige d'elle. Or, du coup, l'usage du sexbot, l'usage de l'autre qui ne consent pas, qui n'est pas un partenaire, peut être aussi une forme de libération.
En parlant de ça et en parlant de ce que disait Raphaël, il y a une nouvelle de Thomas Gunzik, assez extraordinaire, qui s'appelle La Vache, où il y a une modification génétique et un agronome spécialiste généticien fabrique des vaches sous forme humaine.
C'est pas moi,
et il confie une de ces vaches sous forme humaine à un de ses amis. Et au bout d'un moment, elle se balade toute nue tout le temps. Il fait l'amour avec elle. Et c'est le drame.
Ça fait le Minotaure.
Parce que, pour lui, c'est un viol. Pour lui, il a violé la vache. Et ça commence à devenir terriblement douloureux pour lui. Donc, là se pose justement la question du consentement.
Donc c'est un esprit de vache dans un corps de femme, c'est ça ?
Oui.
Ça ressemble pas au sous-être dans Cordwell & Smith, ça ?
Un petit peu, oui.
Ils ont le même usage, il me semble, aussi. Hein.
Mais d'ailleurs, Jeanne...
Oui.
Des machines...
À propos de vaches, Jeanne.
Pas de vaches. Donc, au 19e siècle, on avait des machines à plaisir pour soigner les hystériques.
Oui.
Aujourd'hui,
je voudrais juste dire un mot, parce qu'on avait des machines comme ça, mais ce n'était pas la majorité.
Non,
celles qui
étaient
considérées comme trop... avec des tendances sexuelles trop fortes, on leur excisait le clitoris. En France... y compris au début du XXe siècle. Hein. Ce n'est pas un truc ultra ancien. Donc, la clitoridectomie, ça vous apparaît comme un machin religieux loin ? Ben non, ça se faisait ici pour les femmes considérées comme hystériques parce qu'elles aimaient faire l'amour.
Aujourd'hui, on peut trouver des jouets sexuels connectés comme des boules de geisha pour muscler le périnée, par exemple. Le sextoy au service de la santé, soigné par l'orgasme.
Ah, ça, je peux en parler. Alors,
raconte.
Oui, ça va être une grande confession très discrète. Voilà, je suis.
On est entre nous.
Ouais, je suis fibromyalgique, c'est-à-dire que mon corps m'envoie des signaux de douleur permanents pour tout le temps. Je ne suis pas une grande fibromyalgique, c'est-à-dire que mon handicap invisible. Me permet une vie quotidienne à peu près normale, sauf dans certains cas. Et l'une des choses que m'avait dites mon généraliste à une époque, c'était « La meilleure chose que je pourrais vous prescrire, c'est une vie sexuelle. » De tous les médicaments connus pour soigner la douleur, l'orgasme est encore le meilleur. Et je dois vous avouer qu'elle a raison.
Je voudrais juste savoir si la vie sexuelle c'était avec lui ou
non. D'abord c'était une elle, une mère, et c'est toujours une elle, ce qui ne gâte rien, hein, n'est-ce pas? Et par ailleurs, elle a tout, ça m'aurait pas gêné. C'est une femme admirable. Malheureusement, elle en aime une autre, et moi j'en aime un autre. Donc tout va bien. Nous sommes toutes les deux d'accord. Le fait est qu'à une époque, elle m'avait conseillé, si j'étais seule, d'avoir recours à des artifices mécaniques. Ce que je n'ai pas fait à l'époque parce que c'était, c'était alors dans mes traditions familiales, le sexe sert à la reproduction, point barre. Mais avec la pilule pour qu'on le contrôle. Voilà. On revient à ce qu'on disait. La sexualité, d'accord, ma chérie, mais à condition que tu ne nous fasses pas d'enfant à 16 ans et que tu continues tes études. Voilà. Le fait est que, depuis, je me renseigne à titre de curiosité et j'ai lu des choses très intéressantes dans le blog de Maya Mazorette. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé dans le blog de Maya Mazorette. Les filles, c'est juste l'objet sexuel ultime pour nous. Attendez.
Maya Mazorette est une journaliste spécialisée dans les questions sexuelles qui travaille pour le magazine GQ.
Vous constaterez que c'est rose, c'est pour nous.
Et écrivain aussi, qui a aussi travaillé pour Le Monde et qui a un blog qui questionne la sexualité en France et ailleurs.
C'est très joli, n'est-ce pas? On peut le mettre dans le sac à main.
Et ça ne s'utilise pas dans le sens que tout le monde pense.
Il n'y a pas de fil, on n'est pas obligé de l'accrocher, donc c'est merveilleux. Alors, ça ne vibre pas directement sur le clitoris, ça envoie des impulsions, alors qu'ils peuvent être celles de l'eau ou celles de l'air. Je crois que je n'ai jamais vu un truc aussi extraordinaire que ça. Il paraît. C'est pas pour toi.
Je ne suis pas sûre, mais
on peut essayer.
Ou alors. Alors voilà. C'est le sextoy ultime pour l'instant. C'est le summum de. Depuis combien de temps on est sorti des cavernes? Voilà, notre civilisation est arrivée à ça.
Le néolithique, c'est 10. On va dire que le néolithique, c'est 10 000 ans.
Voilà. Donc. Ça marche sous l'eau, ça marche dans l'air. On peut l'emporter dans son sac à main, dans l'avion. C'est sur secteur pour se recharger. C'est juste faramineux. Cela étant, ça peut être utilisé effectivement comme... Oui. Alors, je vous explique comment ça marche. Allez.
On peut faire ça après, si tu veux.
Alors, on appuie là. Alors, on appuie là. Et donc... Non mais là je suis consentante donc c'est pas un gangbang. Alors vous avez plusieurs vitesses. Alors d'après Maya Mazorette, parce que je n'ai pas encore testé, je suis vraiment désolée. On ne tient pas au troisième stade. Normalement on est déjà à son troisième ou quatrième orgasme, parce qu'en plus c'est multi-orgasmique. Voilà. Alors, attends. Alors, c'est le Satisfier.
Oh.
I can't get satisfaction. Voilà.
I can't get no
satisfaction. Dans la science-fiction, on a aussi les questions de modifications corporelles, voire génétiques, de prothèses intelligentes, de puces à orgasme, comme dans le déclic de Manara, d'un plan cyberpunk permettant de vivre tous ses fantasmes, mais se modifier pour le plaisir, c'est pour le sien ou pour celui de l'autre?
Grosse question. Je pense qu'au départ, c'est aussi bien pour le sien que pour l'autre, afin de pouvoir le satisfaire. C'est dommage que Philippe Curval ne soit pas parmi nous, puisqu'il a quand même pas mal écrit sur la question dans certains de ses bouquins. Je cite un titre ou deux titres, L'arc tendu du désir ou bien Tous vers l'extase. Par rapport à la modification corporelle, il montrait la difficulté qu'il y avait à avoir des relations interespèces avec des extraterrestres qui n'étaient pas tout à fait conformés comme l'être humain. Et tout le récit était une quête vers...
Le but de la quête.
Voilà. Le but de la quête, c'est de pouvoir faire l'amour à toutes les espèces, quelle que soit leur forme. Donc, c'est une question intéressante. Dans Varlet, on n'arrête pas de changer de sexe, d'ajouter des prothèses pour pouvoir justement satisfaire tous les désirs. Les siens, ceux de l'autre, à la demande. Ça date déjà des années 70. Et je pense qu'on ne se pose plus tellement la question. C'est-à-dire que là, c'est les genres qui explosent. Il n'y a plus vraiment de genre. Il y a une altérité complète et puis une rencontre de l'autre, toujours à travers le sexe. Je signale quand même que chez Curval, la question était éminemment politique. Il y a toujours une répression sur le sexe qui permet de se libérer et que le politique va essayer d'empêcher. La preuve, on dit toujours « faites l'amour, pas la guerre ».
Oui, c'est vrai que on n'a pas de chance, nous, les humains, quand même, hein, parce que, justement, on est coincés avec nos deux sexes biologiques qui, pour faire des enfants, sont encore à peu près obligatoires. Pour faire l'amour, on peut avoir beaucoup plus de choix que ça, mais enfin, c'est vrai que dans la nature, il y a quand même plein de choses qui sont bien plus rigolotes que ça. Hein. Enfin, ça peut paraître plus rigolo, a priori, mais ça ne l'est pas toujours, en fait. Hein. Donc, il y a un bouquin que je peux vous conseiller qui s'appelle « Comme les bêtes », qui est paru chez Flammarion et qui décrit l'incroyable diversité des comportements et des organes sexuels chez les animaux. Il y a tout, il y a des dispositifs anti-viol, par exemple chez les canards, il y a des femelles qui ont le vagin en tire-bouchon, dans le sens inverse du tire-bouchon du pénis du mâle, de manière à ce qu'il faille absolument qu'elle soit très très détendue pour que ça marche, sinon c'est impossible.
J'aimerais pas être une chatte, par exemple.
Voilà, il y a des escargots qui sont hermaphrodites, alors donc ça pourrait être sympathique, hein, ils échangent, quoi, et voilà. Mais en réalité, quand ils s'accouplent, ils envoient un dard, mais c'est un dard, c'est vraiment une flèche, quoi, qui transperce la peau de l'autre et puis il l'attire comme ça, il le coince. Et quand il vise mal, des fois, ça peut passer à travers la tête de l'autre. Il y a des photos incroyables d'escargots avec le dard du partenaire qui lui a traversé la tête derrière.
Enfin, bref. Ils sont allés prendre de l'inspiration sur YouPorn pour ça.
Voilà. Donc je peux vous dire qu'effectivement, dans le monde animal, on trouve absolument de tout. Hein. Et que c'est bien plus varié que tout ce qu'on est capable d'inventer nous-mêmes, en tout cas.
En tout cas, chez les bonobos, lorsque un individu est stressé, on va lui apporter satisfaction à faire qu'il cesse d'être agressif.
Ouais, mais on ne lui demande pas sans consentement. Hein,
mais pas sans son consentement, justement, sinon ça ne marche pas. Mais le truc, on parlait de sexe et de politique, de répression du sexe par le politique. Évidemment, si vous vous mettez tous à baiser, vous cesserez d'être productifs, les mecs. Quand je dis les mecs, l'humanité. Donc, non, le sexe n'est pas quelque chose qu'on peut laisser sans contrôle dans les sociétés. Forcément. Ce qui explique pourquoi on a recours après à des artifices tels celui-là, qui est quand même extraordinaire, mais bon.
On a compris.
Voilà, non mais c'est au cas où. J'aime bien. Je suis prof, j'ai tendance à la répétition, je pense que c'est l'essence de la pédagogie. Donc, lorsqu'on en arrive là, c'est qu'on veut empêcher qu'on aille au-delà de la sublimation. Et la sublimation, ça peut être la guerre, ça peut être produire des objets, d'autres machines qui ne servent hélas pas au sexe, ça peut être produire des livres, de l'art. Mon compagnon a l'habitude de dire « on ne baisse pas le modèle avant d'avoir pris la photo ». Et voilà.
Mais est-ce qu'à ce moment-là... installer un love booth, donc comme dans certains films, à côté de la machine à café dans les entreprises, est-ce que ce serait pas une bonne idée?
Je ne suis pas sûre que ça améliorerait la productivité, tu vois.
Par contre, ça pourrait peut-être faire baisser le stress.
Ça, voilà.
Ça, c'est pas le but des patrons.
Mais Jeanne, c'est pas si important que ça, la productivité.
Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais dans un monde capitaliste, dans un monde répressif, c'est la productivité qui compte et pas le bonheur des citoyens. Alors, effectivement, si on est dans une optique différente, là, on peut voir.
Mais voyons.
Let's be.
Alors, j'aurais vous dire que, comme je travaille sur l'évolution, moi, hein, j'essaie d'étudier l'évolution, et c'est assez difficile. Parce qu'en fait, quand on me demande ce que c'est qu'étudier l'évolution, je dis, on essaie de prédire le passé, parce que c'est déjà pas mal, hein, et on n'y arrive déjà pas, vous voyez. C'est-à-dire que si jamais je me place... au secondaire, eh ben, j'ai bien du mal à imaginer que tous les dinosaures vont s'éteindre, sauf ceux qui sont des oiseaux, et des choses comme ça. Et donc, mais ça n'empêche pas que les gens me demandent, mais alors comment vous croyez que l'espèce humaine va évoluer? Et alors, c'est une question, j'en ai aucune idée. Mais, ce que je sais qui ne marche pas, c'est ce qu'on croyait au 19e siècle, que si jamais on utilise beaucoup un organe, il grossit, puis si on n'utilise pas un autre, il rapetisse. Ça, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche, hein, je vous préviens. La sélection naturelle, c'est voyez, donc les gens qui pensent que parce qu'on réfléchit vachement, on va avoir des têtes de plus en plus grosses et parce qu'on travaille de moins en moins, on a des mains de plus en plus petites, c'est pas comme ça que ça marche.
Je suis pas sûre de voir où tu vas là.
Pour que la tête soit de plus en plus grosse, je te laisse fantasmer, Jeanne. Pour que la tête soit de plus en plus grosse, il faudrait que ceux qui ont des grosses têtes fassent plus d'enfants que les autres. Et à l'heure actuelle, on n'a pas constaté ça et pas non plus avec la taille du reste. Mais désolé. Mais en revanche, j'ai cherché quelque chose de pédagogique sur ce plan-là et je me suis rendu compte que le truc le plus pédagogique que je pouvais trouver, c'était justement d'essayer d'imaginer qu'est-ce que ça va changer en termes de sélection sur les humains, qu'on ait déconnecté la sexualité et la reproduction. Parce que ça change les règles du jeu sur le plan de la sélection. Au fond, aujourd'hui, jusqu'au XXe siècle, quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui avait un fort désir sexuel, avait plus de chances de faire des enfants que quelqu'un qui n'avait pas de désir sexuel. Donc la sélection favorisait le désir sexuel. Depuis la contraception, désir sexuel ou pas, ça ne change plus rien sur votre nombre d'enfants. Donc, on ne sélectionne plus le désir sexuel. En revanche, ce qui est très fortement sélectionné aujourd'hui, c'est le désir d'enfant. Si des gens ressentent profondément qu'ils veulent absolument des enfants, ils en auront plus que ceux qui ne ressentent pas du tout ça. Donc, en réalité, on a changé la règle du jeu. On ne sélectionne plus le désir sexuel, on sélectionne le désir d'enfant. Ce qui, normalement, dans les fonctionnements habituels de l'évolution, devrait faire que le désir sexuel devrait diminuer chez nos descendants, si le système reste comme ça suffisamment longtemps, et qu'en revanche, le désir d'enfant devrait augmenter. Et donc, si jamais notre société ne changeait pas et était capable de se maintenir longtemps, ce à quoi je ne crois pas, normalement, si vous revenez dans quelques milliers d'années, vous trouverez des gens qui n'ont quasiment plus aucun désir sexuel, mais qui veulent absolument des enfants.
Mais ils mangent peut-être le diktat du commercial qui va fabriquer des machines et qui vont essayer de nous influencer vers ça, mais ça sera simplement le côté marchandage.
Si jamais nos pulsions ne sont plus les mêmes, les systèmes commerciaux, iront chercher autre chose. Voilà. Peut-être qu'ils fabriqueront des robots bébés, je ne sais pas moi.
Mais sociologiquement, ça pose un certain problème, parce que la plupart du temps, les femmes et les hommes qui ne souhaitent pas d'enfants sont des gens éduqués, sont des gens qui font partie d'une espèce d'élite intellectuelle. Alors que ceux qui ont un fort désir d'enfant font plutôt partie des défavorisés dans la société. Donc,
Je ne suis pas sûr que Bayrou serait très content de vous entendre, mais bon.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a le film Idiocratie qui explore cette possibilité-là, où effectivement il y a de plus en plus de cons parce que les gens intelligents ne se reproduisent pas. Et dans 500 ans, je crois que c'est 500 ans.
Avec un très bon début.
Peut-être un plan des gens intelligents pour sauver ce qui reste d'autres êtres vivants sur la planète. Parce que moi, ce qui m'inquiète là, dans ce qui vient d'être dit, c'est que on va cesser de faire l'amour pour le plaisir, en gros, ou d'avoir moins de désir, pour faire plus d'enfants, on est déjà 7 milliards, on est juste une peste à la surface de la planète. Ça m'inquiète beaucoup quand même.
Non, mais je crois que dans ce que tu disais, c'est vrai si on vivait tout nu dans la jungle, quoi. Mais on vit dans.
Il faudrait que notre société dure assez longtemps. Moi, j'y crois pas.
Mais très longtemps. Parce qu'il faut intégrer le facteur économique, enfin, tout ce qui est. Tout notre environnement. Aujourd'hui, un enfant, ça coûte aussi cher. Donc, on n'en a pas très envie.
Ça a toujours coûté très cher.
Non, c'est pas vrai, ça. En fait, alors ça, bon, on sort vraiment du sujet, mais je peux vous dire qu'actuellement, ce qu'on constate au niveau mondial, c'est que les endroits où on fait le plus d'enfants, c'est justement l'endroit où les gens sont pauvres. Et c'est les endroits où, justement, parce que les enfants coûtent moins cher qu'ils ne rapportent.
Bien sûr.
Donc, effectivement, et ils coûtent moins cher que la pilule aussi. Il y a ça, surtout. S'ils avaient les moyens de contracepter, si certaines religions diverses et variées ne leur lavaient pas le cerveau sur la nécessité de la contraception, de l'usage du préservatif, etc.
Il y a ça aussi, mais en Afrique, si tu n'as pas tes mômes pour aller chercher le bois, pour etc.
Oui, certes.
Ça, je suis d'accord.
Tu abordes un point intéressant, Jeanne, c'est qu'il y a la question de la religion. Et là, il y a des injonctions qui sont faites au nom d'une croyance et qui peuvent changer la donne. Là.
C'est bizarre parce que je ne crois pas que dans la Bible, il y a quelque chose contre les sextoys. Mais bon. ça n'empêche pas.
Pour en revenir aux sextoys, je vais vous poser à tous une dernière question avant de demander au public s'il en a à nous poser.
Quel est ton sextoy favori?
Non, mais on y est presque. Quel objet, quel jouet sexuel, de science-fiction ou pas, aimeriez-vous voir exister aujourd'hui ou dans un proche avenir?
—
Je crois que je leur ai posé une colle.
Il y a tellement de choses.
Bah, en fait, moi, j'ai pas envie d'objets sexuels. Moi, j'ai envie de sujets sexuels, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et mon compagnon est mon sujet sexuel. Alors maintenant, mon corps, mon choix, je serais d'accord pour que quiconque trouve sextoy à son pied, si j'ose dire. Voilà. Alors, le robot en forme de femme ou en forme de ce qu'on voudra, d'éléphant, de galipette à pédale, enfin, ce qu'on veut. Pourquoi pas ? Ce qui me gêne un petit peu, effectivement, c'est quand on arrive sur les questions éthiques, des formes qui vont effectivement évoquer des êtres qui pourraient avoir besoin de donner un consentement, et on revient à ce qu'on disait au départ. C'est toute la question est de quelle façon est-ce que ça va contaminer notre comportement vis-à-vis des êtres vivants.
Moi, j'ai trouvé pour moi. C'est la machine qui permettrait d'expérimenter la sexualité de l'autre genre, c'est-à-dire de ressentir.
Ah, alors là, je suis d'accord.
De ressentir ce que l'autre genre ressent. Désolé, je ne sais pas comment la faire.
Il n'y a rien à dire après ça. Moi, justement, effectivement, je suis d'accord avec l'aspect sujet et avec l'aspect... Et moi, j'allais dire, je ne peux pas dire quel est le sextoy que j'aimerais employer avec ma partenaire, puisqu'il faudrait que c'est elle qui pourrait le dire. Mais c'est pas moi. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec Raphaël. J'avais d'ailleurs déjà écrit une nouvelle sur le sujet. Sur le mode un petit peu destructeur, puisque comme l'autre ressentait en même temps les sensations, on allait vers un apex qui finalement commençait par être destructeur parce qu'il n'y avait plus moyen de s'arrêter, quoi.
Et avant de vous passer la parole, je voulais juste dire que, en fait, le fantasme ultime en SF, celui que les lecteurs et les auteurs de SF ont le plus écrit et lu, c'est l'antigravité. C'est l'amour dans le vide, l'amour sans gravité, en apesanteur. Et ça, il n'y a pas besoin de jouer.
Oui, mais c'est pas possible.
Oui, non, je ne le sens pas. Je ne sens pas cette histoire. C'est un peu comme l'amour dans la baignoire.
Je sais que c'est impossible et je sais pourquoi c'est impossible. Mais bon, nous vivons.
Beaucoup de gens ne le savent pas.
Mais nous sommes quand même dans un univers orgasmique, puisque si on parle de succession de Big Bang et de Big Crunch, on est dans un orgasme permanent. Mais en effet, le problème, c'est la poussée.
Souvent, oui.
En apesanteur. Et le contrôle des mouvements.
Il semble que ce soit vrai, j'en ai parlé avec un astronaute il y a 2 semaines.
Enfin, je ne suis pas sûr qu'on ait suffisamment d'expérience pour être sûr que ce n'est pas possible. Mais bon,
Non, mais
vraisemblablement, après, le corps humain s'adaptera peut-être s'il grandit longtemps en apesanteur, mais aujourd'hui, les astronautes, ils ne peuvent pas. Le cœur ne suit pas, quoi.
Je propose qu'on envoie une lettre de protestation à Chris Hadfield, qui nous a montré des tas de choses qui étaient possibles en apesanteur, mais pas celle-là. Pourtant, chanter une chanson de David Bowie et baiser, c'est quand même beaucoup plus facile de baiser. Je suis désolée.
Oh, on a vu des photos de femmes cosmonautes en nuisette dans la station spatiale européenne. Donc, on peut se poser des questions sur ce qu'ils y ont fait.
Et moi, ça m'intéresse vachement parce que c'est un thème central du roman que je suis en train d'écrire. Donc, si quelqu'un a des éléments là-dessus, concrets.
Voilà. L'une des plus belles scènes, d'ailleurs, sans gravité. C'est dans Le printemps russe de Norman Spinrad. Alors, est-ce que vous avez des questions ?
Ou des témoignages ?
Pareil.
Bonjour. Une question qui s'adresse plus particulièrement à M. Gouillon. Ah, excuse-moi. Dans ma vision des choses, je vois l'acte sexuel, ou le plaisir comme l'assouvissement du désir. Et le désir comme émergeant d'un manque. Le plaisir comme l'assouvissement du désir et le désir provenant d'un manque, une sensation de manque. Du coup, j'ai du mal à transposer cette sensation de plaisir aux autres animaux. Ou peut-être qu'ils ressentent du plaisir, mais peut-être pas de la même nature que le nôtre.
La plupart des animaux se masturbent. Oui, les grands singes fabriquent des dildos en liane.
Non, mais je ne parlais pas de ce point de vue-là, je parlais du point de vue plus philosophique, du coup, de la chose.
Vous savez, il y a deux écueils très difficiles à éviter quand on pense aux autres animaux. Faites attention, je ne dis jamais l'homme contre les animaux. L'homme est un animal, donc l'homme et les autres animaux, hein, soyons bien clairs. Donc, il y a deux écueils. L'un, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, l'autre, c'est l'anthropocentrisme. L'anthropomorphisme, ça consiste à analyser tout ce que font les autres animaux en fonction de ce qu'on ressentirait nous si on faisait la même chose. Et évidemment, il y a des cas où ça doit être abusif. L'anthropocentrisme, c'est de placer l'homme tout en haut de la création et de décider que tout ce qui est ressenti par les humains, il n'y en a rien qui soit pareil chez les autres animaux. Ben, je pense que les deux sont des erreurs. Et que malheureusement, on n'a aucun moyen d'être sûr de ce qu'on dit quand on attribue à un animal quelque chose qui nous est propre. Donc, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de grande différence entre le plaisir que prend un singe, et je ne vois pas pourquoi un singe n'aurait pas un sentiment de manque, lui aussi, il n'y a pas de raison, et même un chat, ou même sans doute un insecte. Et mon manque à moi, et mon plaisir à moi, etc. Mais effectivement, et même de ma volonté à moi, d'ailleurs, je pense que quand un renard court après une poule, il veut la manger, tout comme moi quand j'attrape une pomme. Bon. Donc la volonté ne nécessite pas une conscience réfléchie. Vous savez qu'on a montré des trucs comme ça. Hein. On met des électrodes sur la tête d'un mec et on le regarde vivre. Et à un moment, il se lève, il va chercher une bière au frigo, il boit, il ne se passe rien. Et à ce moment-là, vous lui demandez pourquoi tu es allé chercher une bière. Et à ce moment-là, tous les centres de la conscience s'allument et il se met à inventer une histoire sur pourquoi il allait chercher sa bière. Mais en réalité, il fonctionnait sans avoir du tout besoin de faire fonctionner sa conscience. Donc je pense que nous fonctionnons comme n'importe quel autre animal dans beaucoup de circonstances et que notre conscience réinterprète ce qu'on a fait en se l'appropriant, souvent a posteriori. Ouais.
Et du coup, c'est parce que j'avais une deuxième partie de ma question, mais comme j'avais été coupé, du coup, ce que je disais, c'est, enfin, la deuxième partie, c'était justement si on avait à disposition, comme vous l'avez mentionné, comme des sexbots ou des créatures ou des robots servant à assouvir ce plaisir sexuel de façon pléthorique ou à volonté, est-ce que ce ne serait pas justement la mort du désir et du plaisir? Si on a quelque chose à profusion, on n'en manque pas, du coup, est-ce qu'au contraire, ça ne ferait pas une diminution du plaisir?
Il y a des olisbos depuis l'aube des temps, j'ai pas remarqué que l'humanité avait cessé.
Et est-ce que les types qui avaient le droit d'avoir 200 femmes dans certaines. Ils avaient quand même pas mal de rapports sexuels aussi.
C'est quand même un peu judéo-chrétien, ou en tout cas marqué de religion, que de penser que trop de sexe va amener à moins de désir, moins de vrai amour, moins de vrai ceci. Dans mon expérience de la vie, plus on aime quelqu'un, plus on le désire. C'est avec quoi ça a fait Larsen, là? Je ne sais pas. Je ne crois pas à cette façon de présenter les choses. Pour moi, elle est vraiment marquée de répression.
De culpabilité.
Et de culpabilité. Hein. Dès qu'il y a de la culpabilité, dès qu'on commence à vous dire... Oui, l'immortalité, par exemple, ça va être super dur. On va être très malheureux et d'ailleurs, on va tous mourir à la fin. Et je n'arrive pas à croire que l'immortalité, ça puisse être si terrible que ça. À part que c'est un pouvoir qu'on attribue à Dieu, comme d'ailleurs l'extase et l'épectase et toutes ces sortes de choses. Donc, dès que l'homme tente de s'en approcher si peu que ce soit, tac, on lui donne un coup sur la tête et on lui rappelle que c'est un sale gamin et que non, il n'y a pas droit.
Moi, je suis pour qu'on l'autorise à condition de stériliser les gens. Hein.
Oui, aussi, parce que 7 milliards, ça commence à faire beaucoup. Hein.
Une autre question, mais on va devoir arrêter bientôt.
Bonjour. Alors, ma question, c'était à propos des sex-dolls japonaises, notamment, parce que c'est là-bas que ça évolue le plus. Si on croisait les sex-dolls les plus développés avec l'intelligence artificielle naissante, est-ce qu'on pourrait arriver à des sex-dolls qui seraient, pour ainsi dire, humanisés? Avec à quelle limite on place quelle limite on place entre la sex doll et l'être humain?
Il y en a pas mal en science-fiction, en fait, des intelligences artificielles pourvues d'un corps qui ont conscience d'elles-mêmes. Mais à partir du moment où elles ont conscience d'elles-mêmes, on est plus loin qu'un sexbot, on est plus loin qu'une real doll. On a une personnalité, on a quelque part quasiment un être vivant. Ouais.
Alors, je me rappelle quand même, je vais parler d'un roman d'un auteur qui est présent sur le festival et qui fait partie des grandes claques que j'ai prises les 20 dernières années en space opéra. Je pense au roman La Miséricorde, l'épée et la justice de l'ancillaire de Anne Leckie. Là-dedans, vous avez un vaisseau spatial qui, jadis, s'incarnait dans tout un tas de corps que sont les ancillaires et qui se retrouve, en fait, à la suite de la destruction du vaisseau, coincé dans un seul corps. Et ce corps-là ne va pas avoir de sexe, ne va pas au sens anglais du terme. Je le dis comme ça parce que c'est un petit peu décrit comme ça. Parce que ce qui comptait pour lui, c'était d'aller se coucher les uns contre les autres à l'intérieur du vaisseau. Le sexe ne faisait pas partie vraiment de ses préoccupations, bien qu'il soit décrit des moments où, pour détendre un des segments du vaisseau, les autres segments lui faisaient l'amour, un peu comme les bonobos décrits précédemment. Mais c'est un corps entier qui se fait l'amour à lui-même, et je trouve que cette idée-là est extraordinaire. C'est une véritable idée de science-fiction. Anne Leckie est un immense auteur de science-fiction.
Dans L'espace d'un an de Becky Chambers, qui est aussi un très 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 beau roman, il y a une superbe histoire d'amour entre une intelligence artificielle de vaisseau et son technicien informatique, qui cherche à lui offrir un corps. Et en fait, il lui fait l'amour en descendant dans le cœur du vaisseau et en se collant contre l'intelligence artificielle, c'est un roman magnifique.
On est parti un peu loin de la question de monsieur, mais ça va venir. Il y aura des expériences là-dessus. Alors évidemment, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle singe assez mal l'être humain, mais ça, on va s'en rapprocher petit à petit. Ouais. Et la transition sera continue. Je ne pense pas qu'il y aura... que tu demandais quelle était la frontière. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une frontière très, très claire.
En même temps, il y a des tas d'êtres humains qui singent assez mal l'humanité. Hein.
Malheureusement, nous allons devoir nous arrêter là. Mais je vous remercie tous d'avoir participé, et vous aussi.
Merci, Sarah.